Genèse 18, versets 1 à 5. Genèse 18, versets 1 à 5. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain trois hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds, puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Très bien, fais comme tu l'as dit. » Amen. On va prier pour la parole. Oui, Seigneur, je prie que ce matin, par ta parole, toi-même tu parles au cœur. Seigneur, toi-même tu trouves un écho dans nos cœurs, tu fasses retentir, Seigneur, ton appel, tu fasses retentir ce que tu veux dire à chacun de nous dans son cœur. Et que nous puissions reconnaître et que notre cœur puisse faire écho à ce que tu dis. Et que nous sachions que c'est toi qui nous interpelle et toi qui veux ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour entendre, pour recevoir. Et pour recevoir tout ce que tu veux donner, Seigneur. Père, je prie un esprit de liberté et un esprit d'écoute. Je prie que nos cœurs et nos oreilles soient attentifs à ce que tu veux nous dire et que nous sachions reconnaître que cette voix vient de toi et que cette voix nous appelle à entrer dans tes plans. Seigneur, viens enlever tout ce qui peut faire voile devant nos yeux, Seigneur. Tout le poids de, peut-être de ce que nous portons, Seigneur, que ces choses puissent être enlevées par ton esprit afin de voir, afin de reconnaître et afin d'entrer dans ce que tu dis. Oui, merci Seigneur, nous déclarons ta bénédiction, Seigneur, sur ce temps. Nous déclarons ta liberté sur ce temps et nous déclarons que tu parles et que tu interpelles et que tu libères et que tu amènes à entrer dans tes voies et dans ta bénédiction. Amen. Amen. Alors, j'étais interpellé par ce passage d'une façon nouvelle il y a quelques semaines. Et c'est un passage que j'ai eu l'occasion de partager déjà, mais enfin pas ici bien sûr, mais je sentais que le Seigneur me disait c'est ça que tu dois partager ce matin. Je n'ai pas l'habitude de partager beaucoup de fois les mêmes messages, mais je sentais vraiment que c'était ça qui allait dans la continuité de ce qu'on a vécu. Donc voilà, je ne sais pas comment vous lisez la parole de Dieu, comment vous lisez la Bible. Je suppose que vous la lisez avec peut-être des lunettes comme moi, mais ce n'est pas ça que je demande, c'est avec quel regard vous lisez la parole de Dieu. Est-ce que, vous voyez, ah, c'est un bon catalogue de bons conseils de Dieu, ou est-ce que vous réalisez, vous savez, des fois dans le naturel, dans ce monde, on a ce qu'on appelle les sagas, voilà, les sagas où tu vois une famille sur plusieurs générations, c'est passionnant, on voit comment les fils, les petits-fils grandissent. Mais est-ce que tu réalises que la plus grande saga de l'histoire, c'est celle-là? Et c'est une saga d'hommes et de femmes, mais non seulement c'est des hommes et des femmes qui vivent avec leur peine, avec leur joie, mais avec leur relation avec Dieu. Donc Dieu est au centre, Jésus est au centre de cette parole, on a dit hier, Jésus est la parole, mais c'est aussi des hommes et des femmes qui vivent et qui ont vécu, comme nous, avec leur joie et leur peine. Et quand tu sais, la tentation quand tu lis la parole, c'est, oh, tu dis, oh, ben, le pauvre Abraham, oh, ça va pas fort là. Puis tu le tournes deux pages, ah oh, super, ça y est, tout va bien pour Abraham. Ah Joseph, là, il est en prison. Ah mais trois pages plus loin, oh ben c'est super. Mais en faisant ça, des fois, on a tendance à oublier les mois, les années de souffrance, de larmes, d'attente, de foi, et la puissance de la joie de la libération de Dieu. Et c'est important de pouvoir resituer la parole de Dieu sur ce qu'elle est. Et c'est un petit peu comme ça que Dieu m'a interpellé. Voilà, on a Abraham qui est devant sa tente, un jour de forte chaleur. Et j'essayais de m'imaginer un petit peu ce qui pouvait passer dans la tête d'Abraham. Vous savez, hein, les gens de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas la télé, alors ils avaient le temps de penser, ils avaient le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Et j'imagine un petit peu tout ce qui pouvait passer. Abraham est seul, dans la chaleur du jour, probablement les gens dorment dans la tente et rien ne est là pour le déranger ou capter son attention. Et probablement il est en train de méditer, Abraham. Et qu'est-ce qu'il peut méditer? On sait que dans ce passage, il y a ces hommes qui vont venir, qui vont lui annoncer que Sarah, ils reviendront dans un an, Sarah aura un fils, le fils de la promesse. Mais avant tout ça, Abraham, il a vécu beaucoup d'années. Et voilà, 24 ans à ce moment-là qu'il est arrivé dans le pays, à 75 ans déjà. Et là maintenant, il a 98 ans, donc 23 ans. Et il va enfanter à 99 ans. Et enfin, c'est sa femme qui va enfanter, mais il va avoir le fils Isaac à 99 ans. Et les années ont passé, il a eu Ismaël. Et Ismaël, à cette époque-là, il a à peu près 12 ans. Et certainement, Abraham est en train de penser à... Je peux imaginer qu'Abraham pense à sa vie, à ce qu'a été sa vie. Et il est en train de méditer sur tout le chemin parcouru, comment Dieu l'a appelé dans sa famille, il lui a dit « sors de ta famille, sors de ton pays », comment il est arrivé à Charan, comment son père était resté avec lui, son père est mort, et après il a continué, il est arrivé dans la terre promise, et il se rappelle probablement de tous les... comment il est arrivé dans un pays qu'il ne connaissait pas, de tous les combats, de toutes les difficultés, comment il avait fui en Égypte, de toutes les façons dont Dieu l'a parlé, les rencontres avec Dieu, les promesses de Dieu, cette alliance qu'il lui avait dit où il dira tu auras une postérité plus grande que les étoiles du ciel, plus nombreuse que les étoiles du ciel. Mais il considère toutes ces promesses de Dieu et il considère aussi la réalité. La réalité c'est quoi? C'est Ismaël, ce fils qui est là. Et Ismaël, vous savez comment il est venu Ismaël, hein, à force de ne pas pouvoir enfanter, Sarah, elle a eu cette bonne idée humaine, si on peut dire, entre guillemets, de dire voilà, mais prends ma servante et elle va enfanter un fils, c'est moi qui l'élèverai, il sera mon fils. Et là, quelque chose, voilà, Abraham dévie du plan divin. Et déjà, il voit en Ismaël qui n'est peut-être pas le fils qu'il aurait espéré. Vous savez, il sera dit plus tard que Ismaël, il y a une prophétie qui est donnée sur lui. Il est dit, tu seras comme un âne sauvage. La main de tous sera contre toi et ta main sera contre tous. Et ça nous parle d'un enfant qui était probablement assez rude. Probablement pas le type d'enfant que Abraham aurait souhaité, qu'il avait attendu de la promesse. Et Abraham considère tout ça et il sait que quelque chose n'a pas été dans sa vie. Il sait qu'à un moment donné, pourquoi Sarah a eu cette idée? Pourquoi j'ai écouté Sarah? Pourquoi nous avons utilisé cette méthode? Peut-être il est en train de se demander, mais est-ce que je suis passé à côté du plan de Dieu pour ma vie? Est-ce que c'est Ismaël qui est vraiment ce que Dieu avait prévu pour moi? Est-ce que je suis passé à côté du plan de Dieu pour ma vie? Et il y a toute cette frustration et cette insatisfaction qui peut remonter dans le cœur d'Abraham. Et Abraham est sûrement en train de se battre avec ça. Imaginez aussi Abraham. Vous savez ce que veut dire Abraham? Qui sait ce que veut dire Abraham? Bon, il avait un premier nom, c'était Abraham. Et ça veut dire père élevé. Et quand Dieu lui a fait la promesse qu'il lui donnerait une postérité, il a dit non, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, père d'une multitude. C'est ça, père d'une multitude. Et vous savez, on l'a vu hier avec Daniel, l'importance des noms dans l'Ancien Testament, et jusqu'à aujourd'hui, l'importance des noms, même si nous, on a perdu la notion de cela, l'importance des noms, le nom, c'est ce qui va être le plus souvent proclamé sur ta vie. Hein? Tes parents t'appellent, ils disent ton nom. À l'école, on t'appelle, on te dit ton nom. On te salue, on te dit ton nom. Imaginez, pour Abraham, la souffrance, à chaque fois qu'on l'appelait, que sa femme l'appelait, père d'une multitude. On l'appelle père d'une multitude. Oh, bonjour, père d'une multitude. Et pendant des années, il n'a pas un fils. Il n'a pas un fils. Père d'une multitude. Quelle humiliation. Ça veut dire qu'à chaque moment où il était appelé, il pouvait avoir cette douleur dans le cœur. Mais à chaque fois que Sarah appelait son mari, père d'une multitude. Mais on n'a pas un enfant. Père d'une multitude. Quelle souffrance, quelle frustration et quelle insatisfaction pour Abraham. Mais il y a quelque chose de pire, c'est que Abraham peut être en train de se demander, suis-je passé à côté du plan de Dieu pour ma vie? Où est cet enfant de la promesse? Où est cette postérité? Où, nombreuses comme les étoiles? Et toutes ces pensées doivent agiter Abraham. Et peut-être que ça nous parle. Où en es-tu? Quelles sont les promesses que Dieu a faites sur ta vie? Quelles sont les promesses que Dieu a faites sur ta vie? Et peut-être que Dieu a fait des promesses pour ta famille. Peut-être que Dieu a fait des promesses pour ton travail, peut-être que Dieu a fait des promesses pour tes enfants, pour ton couple, peut-être que Dieu a fait des promesses pour ta santé, peut-être que Dieu t'a fait des promesses pour servir dans son Église, pour servir dans le corps de Christ. Et peut-être que tu étais enthousiaste de ces promesses, comme Abraham. Et peut-être que tu as commencé par un bon chemin, Abraham était obéissant, il a marché avec Dieu. Et peut-être que tu as commencé à avoir l'attente, comme Abraham, des mois, des années peut-être, et tu n'as pas semblé voir l'accomplissement de la promesse. Et peut-être que, comme Abraham, tu as poussé des portes, tu as dit « Oh, je vais aider un peu Dieu. » Peut-être « Oh, peut-être j'ai pas bien entendu Dieu. » Voilà, et peut-être tu as essayé des raccourcis, comme on a dit hier, et tu as commencé à pousser des portes. Et peut-être, oui, tu as commencé à voir un accomplissement de quelque chose, comme Abraham a vu un fils. Mais peut-être après tu t'es rendu compte, mais est-ce que là j'ai vraiment obéi à Dieu? Ou est-ce que je suis passé à côté du plan de Dieu? Et est-ce que je suis définitivement passé à côté du plan de Dieu? Imagine, Abraham devait se poser ces questions, et peut-être tu te poses ces questions aujourd'hui. Mais il y a une suite à l'histoire. Mais c'est des questions qu'on peut se poser en tant qu'individu, mais une question aussi qu'on peut se poser en tant qu'église, église locale. Quelles sont les promesses que l'église a reçues? Et où en est-on de l'accomplissement de ces promesses? Et qu'avons-nous fait de ces promesses? Et est-ce que ces promesses ont commencé à s'accomplir? Est-ce qu'on avait marché? Peut-être à un moment donné, on n'a plus tout à fait marché dans la bonne direction, ou est-ce qu'on ne comprend pas pourquoi les promesses ne s'accomplissent pas? Quelle est cette frustration, cette insatisfaction qui peut être en nous, pour une région, pour une nation même? Il y a autre chose dans ce passage. Vous voyez, c'est peu de phrases, et ça semble anodin, mais dans ce passage, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y a la chaleur du jour. Il y a toute cette chaleur du jour qui écrase Abraham. Hein, ceux qui ont été dans ces régions-là, bon, Annette et Jean-Luc ont été récemment, au mois d'avril, hein, je pense qu'il fait assez chaud. En plein chaleur du jour, en Israël, il fait très chaud. Il fait très chaud, c'est pas le moment où tu as envie de faire ton aérobic, ta gymnastique. Non, c'est le moment où tu as envie d'être dans la tente, peut-être, comme beaucoup là, qui dormaient dans la tente. Et il y a cet écrasement de la chaleur du jour. Et ça, spirituellement, je pense que ça parle de toutes les épreuves, les obstacles, les déceptions, l'accusation. L'ennemi qui vient et qui dit « Oh, mais regarde, mais où est ta promesse? Où est la promesse que Dieu a fait? Oh, mais regarde ce que tu as fait. Regarde, comme Abraham, voilà, tu as voulu forcer la promesse de Dieu. Regarde où tu es aujourd'hui, le poids de l'accusation de l'ennemi, le poids de la frustration. Vous savez, je crois qu'il y a quelque chose de pire que l'échec. Des fois, on a des échecs durs dans nos vies, mais on se dit « Oh, je vais pouvoir recommencer. » Ah, bien sûr, tu ne dis pas ça peut-être le lendemain de l'échec, tu es cassé, voilà, échoues un examen, mais puis tu reprends force et l'année suivante tu repars avec force et tu peux résoudre un échec. Mais je pense qu'il y a quelque chose de pire dans la vie que l'échec. C'est quand tu as l'impression d'inachèvement, que quelque chose a été volé dans le plan de Dieu et que ce qui avait été promis, ce que tu pensais qu'il allait se réaliser, tu as commencé à voir les prémices et c'est comme si la plante était morte alors qu'elle n'était encore que chétive. Et ça c'est très frustrant parce que tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu te dis mais... je pense que la plante est perdue, on peut pas, il n'y a pas d'espérance. Et certainement, ça a accablé Abraham. Et quand tu es dans cette situation de chaleur du jour écrasée, il y a les doutes, le ressentiment, tout est mêlé et ça vient en toi. Et ça vient en toi contre Dieu aussi, contre les autres et contre Dieu. Tu cherches des responsables, tu es plein de ta frustration et tu cherches des responsables. Souvent, tu commences à accuser les autres et peut-être tu n'oses pas le dire avec ta bouche, mais tu accuses Dieu. Dans ton cœur, tu as du ressentiment et de la frustration envers Dieu. Mais face à cela, j'ai une question à vous poser. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Abraham était devant la tente. Il était assis devant sa tente. Où êtes-vous? Il y avait certainement des gens qui dormaient dans la tente. Et pour moi, spirituellement, ça parle des gens, voilà, ils sont écrasés par la chaleur du jour, de la chaleur de toutes ces épreuves, ces déceptions. Et finalement, ils ont décidé de rentrer dans la tente et de dormir. Et je pense que si on est là, on n'est pas dans ce cas-là. Parce que pour moi, ça parle des gens qui se retirent complètement. Ils disent « Ah, oh, mais j'avais espéré la marche avec Dieu, la vie avec Dieu, mais oh, finalement, je tire un trait là-dessus. Je choisis de retourner dans la tente et de dormir. » Et peut-être, il y avait des gens dans la tente qui ne dormaient pas, mais qui somnolaient, qui étaient là, ils prenaient un peu de repos. Et ça, pour moi, je pense que ça parle de... voilà, on est assoupi dans notre vie. On a eu un temps où il y avait le zèle ardent de Dieu, mais maintenant, on est assoupi. On est sans espérance. Oh, on continue notre marche quotidienne avec Dieu, un peu par habitude. Il y a encore un peu la foi qui est là, mais on est découragé, on est assoupi. Il n'y a plus de force, il n'y a plus de zèle. Il n'y a plus beaucoup vraiment d'envie. Et puis, on peut être devant la tente. On peut être devant la tente, mais on peut être prostré devant la tente. Voilà, je suis devant la tente, moi, je vois trois hommes qui viennent, oh, mais qui se débrouillent. Moi, je suis devant la tente, là, je suis fatigué. La chaleur du jour, j'ai connu trop de choses dans ma vie, pas question que je bouge. Et ça parle un peu comme des chrétiens qui proclament leur foi avec la bouche, mais sans y croire vraiment. Voilà, de temps en temps, on proclame « Oh, alléluia, le réveil en France !» Mais le cœur n'y est pas. Il y a quelque chose qui a été brisé, on est découragé. Et je pense que c'est normal qu'on passe par des phases comme ça. L'important, c'est de ne pas rester dans ces phases-là. Ou alors, on est comme Abraham. Et ça, c'est la force d'Abraham. Vous voyez, c'est vrai. Abraham et tous les hommes de Dieu, hein, c'est pas des surhommes, c'est pas des gens qui ont été extraordinaires, ils ont fait, oh, tout a été super dans leur vie, ils n'ont jamais changé, jamais déraillé du plan de Dieu, toujours parfaitement entendu Dieu, toujours parfaitement obéi. Non, Abraham a fait ses erreurs. Abraham a eu ses dérives aussi. Quand il est parti en Égypte, il a dit, oh, Sarah, c'est ma sœur. Et il n'a pas dit que c'était sa femme. Et là, quand il a accepté cet enfant, Ismaël, beaucoup de choses dans la vie d'Abraham. Mais la force d'Abraham, c'est qu'il restait assis devant la tente et en éveil. Et ça, pour moi, ça parle de cette capacité à être prêt à reconnaître la visitation de Dieu, à être prêt à croire que Dieu n'en a pas fini avec toi, que Dieu va intervenir et que Dieu peut transformer les situations de ta vie, que Dieu peut faire venir une nouvelle saison sur ta vie. Abraham était dans cet éveil, Abraham était dans cette attente. Et Abraham, bien sûr, il considérait toutes ces choses et il était frustré et insatisfait probablement, mais il avait cette espérance parce qu'il connaissait Dieu, que Dieu pouvait et allait intervenir. Et parce qu'il est dans cette situation, il va être capable de reconnaître la visitation de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Trois hommes. Il n'est pas dit que Dieu s'est mis à parler dans un tonnerre, Abraham, viens, tu vas avoir un enfant dans un an, et il n'a pas vu des éclairs qui descendaient du ciel, il n'a pas vu un ange qui venait voler près de lui. Non, il voit trois hommes. Vous savez, pour moi, ça me parle beaucoup, ça, parce que comment est-ce que tu attends que Dieu te visite? Quel est le signe de la visitation de Dieu que tu attends? Vous savez, on parle souvent du réveil, par exemple. Ah, alléluia, le réveil. Mais qu'est-ce qu'on attend? Que des flammes tombent du ciel sur les têtes de chacun dans cette église, le réveil, et il va avoir du feu. Bien sûr, quand le réveil de Dieu va venir, je sais qu'il y aura aussi des signes prodigieux et des miracles, mais souvent, la visitation de Dieu, le prémisse du réveil, c'est quelque chose qui semble anodin, que Dieu met pour ceux qui sont capables, comme Abraham, d'être en éveil et de reconnaître cette visitation de Dieu. Et souvent, parce que nous attendons des signes forts, et nous sommes incapables, nous passons des fois à côté de la visitation de Dieu parce que nous ne sommes pas capables de la reconnaître. Pensez à Jésus quand il est venu. Et qu'est-ce qu'il dit sur Jérusalem? Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, et tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Pourquoi? Parce que les gens s'attendaient à un Messie qui allait venir en force, en puissance, comme un roi, renverser les Romains et faire des grands signes. Et parce qu'ils s'attendaient à cette visitation selon leur pensée, et non pas selon la pensée de Dieu, ils n'ont pas été capables de reconnaître la visitation. Quels sont les signes de la visitation de Dieu que tu attends? Et déjà, le fait de s'attendre à ce que Dieu agisse d'une certaine façon, c'est déjà un risque de passer à côté de la façon dont Dieu va agir. Parce que Dieu est toujours un Dieu surprenant. Je pense qu'on peut reconnaître Dieu dans certaines de ses voies, et on peut s'attendre à Dieu dans certaines de ses voies, mais très souvent, il nous prend à défaut dans nos propres attentes. Là où nous avons des pensées orgueilleuses, où voilà, quelque chose d'extraordinaire va se passer, qui va glorifier notre Église, qui va glorifier notre région. Dieu agit complètement différemment, parce que Dieu veut garder son peuple dans l'humilité et se servir de personnes humbles, qui sont capables de le reconnaître dans les choses simples et humbles. Et donc, Abraham, lui, parce qu'il est dans cette situation d'éveil, il est prêt à reconnaître ces trois hommes comme une visitation de Dieu. C'est-à-dire que bien sûr, il sait qu'il y a l'hospitalité, il y avait toute la réalité de l'hospitalité, voilà, on ne laisse pas trois hommes passer, mais il est prêt à reconnaître que là, c'est Dieu qui envoie ces trois hommes. Je suis sûr que dans son cœur, il ne sait pas que ces trois hommes vont lui dire, voilà, tu auras un fils dans un an. Mais il sait que c'est une visitation que Dieu lui fait et qu'il a un rôle à jouer pour répondre à cette visitation. Et ça, c'est intéressant de voir et d'essayer de comprendre pourquoi. D'abord parce que Abraham reconnaît que la visitation de Dieu est une opportunité. Il voit que c'est une opportunité de faire deux choses, de servir les hommes, c'est-à-dire, voilà, concrètement, d'offrir l'hospitalité à ces personnes et puis de les servir, de leur donner à manger, de leur donner à boire. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux pour Dieu dans un caractère. Cette capacité et cette situation d'éveil où tu es prêt à servir les hommes. Parce que quand tu es prêt à servir les hommes, ça veut dire aussi que tu es prêt à servir et à honorer Dieu. Abraham était prêt à servir et à honorer Dieu. Et c'est pour ça qu'il reconnaît cette visitation de trois hommes, anodine, mais comme une opportunité que Dieu lui donne de servir et d'honorer Dieu. Pas de dire, oh, c'est ma prophétie qui arrive, ah, enfin, ça fait 25 ans que j'attendais, allez, ouais, venez, bon, qu'est-ce que vous avez à me dire de la part de Dieu? Non, c'est pas ça, Abraham, il ne leur tombe pas dessus comme ça. Il ne s'attend même pas à ce qu'il y ait une réponse de Dieu au désir de son cœur, mais parce qu'il est prêt à servir les hommes et à servir et à honorer Dieu, il va entendre aussi la réponse que son cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Abraham a une grande qualité, c'est qu'il a gardé son cœur prêt. Vous rappelez-vous hier, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Il a gardé son cœur prêt. Il a gardé le rêve de Dieu en lui. Il n'a pas oublié les promesses de Dieu. Il a gardé ça vivant en lui. Bon, bien sûr, il y a les déceptions, il y a la frustration, mais il garde au fond de son cœur le rêve de Dieu vivant. Pensez à Joseph dans la prison. Pensez à Joseph dans la prison. Pendant 13 ans, Joseph est resté 13 ans esclave de Potiphar, puis en prison. 13 années. Mais il n'a pas oublié le rêve de Dieu. Au point que quand Dieu envoie deux personnes avec leur rêve, il pense que ça y est, c'est le temps où Dieu va accomplir sa promesse. J'interprète leur rêve et mon rêve va se réaliser. Mais il va falloir qu'il attende encore 2 années, pour que Dieu réveille Pharaon avec un rêve et pour qu'on fasse appel à Joseph. Mais comme Joseph, Abraham a gardé le rêve de Dieu dans son cœur. Est-ce que tu as gardé le rêve de Dieu dans ton cœur? Quel est le rêve que Dieu a mis sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et qu'est-ce qui a tressailli dans ton cœur quand tu as connu Dieu? Et je sais, ce n'est pas forcément des grandes choses, je ne dis pas que tu as eu un rêve comme Joseph, mais Dieu a mis quelque chose, un désir dans ton cœur. Peut-être c'est simplement, et quand je dis simplement, je sais, c'est déjà énorme, peut-être c'est simplement que tes enfants viennent à Christ. Et quand je dis simplement, je souligne bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Peut-être c'est ça. Je dis, ça n'a pas besoin d'être un grand rêve selon l'homme, mais un grand rêve selon Dieu. Et qu'est-ce que tu as fait de ce rêve? Qu'est-ce que tu as fait de ce rêve? Abraham a gardé vivant le rêve de Dieu. Et vous savez pourquoi il a gardé le rêve de Dieu vivant? C'est parce qu'il a gardé le désir ardent de voir la gloire de Dieu manifestée. Des fois, nous gardons un rêve parce qu'on a envie de voir notre gloire manifestée. Mais Abraham, lui, il a gardé dans son cœur le désir de voir la gloire de Dieu manifestée. Oh, Dieu, quand les gens verront que cet homme qu'on a appelé père d'une multitude, enfanter l'enfant de la promesse, oh, ça, c'est vraiment le nom de Dieu va être glorifié. Le nom de Dieu va être honoré. Abraham a gardé ce cœur. Il veut voir le nom et la gloire de Dieu manifestés et honorés. Et ça, ça le garde de l'oubli, de la lassitude et de la résignation. Je vais vous donner une petite histoire que j'ai vécue en Inde, comme a dit Jean-Luc hier. Je ne suis pas allé au Tibet, contrairement à ce qu'il a dit, mais jusqu'en Inde. Mais ce n'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois, je suis sûr. Je pense que c'est même peut-être prophétique. Mais on est allé en Inde et bon, on a vécu beaucoup de choses vraiment formidables avec Dieu là-bas, en équipe. Et à un moment donné, on est parti dans les montagnes de l'Himalaya, autour de 2000 mètres, et on a visité une petite ville et puis des villages. On a marché de village en village. On allait voir les quelques couples chrétiens, les quelques chrétiens qui sont là-bas, qui sont disséminés et qui sont très peu, qui vivent dans des conditions difficiles, parce que c'est quand même un pays où il y a de la persécution. Et je me rappellerai toujours qu'on est entré dans cette petite ville et on est entré dans la maison d'un vieil homme, qui a une personnalité quand même dans le village. C'était l'ancien principal de l'école primaire. Donc, dans un village dans les pays en développement, c'est quand même une notabilité. Et il était couché sur son lit, il a 86 ans, cet homme. Et quand il nous voit entrer, oui, 86 ans en Inde, vous imaginez, ça vaut bien 100 ans chez nous. 86 ans, et il se redresse sur son lit pour nous saluer. Et donc, on s'avance et il nous salue. Et il nous dit, d'où venez-vous? Et je lui dis, on vient de France. Et il me regarde étonné, il dit, de France? Mais c'est une révolution. Et, bon, je c'était pas seulement un jeu de mots qu'il faisait. Il était vraiment touché parce qu'on s'est rendu compte pendant ce voyage. Il y a une femme qui travaille avec Opération Mobilisation, une américaine. Elle nous a dit, vous savez que votre équipe est prophétique parce que j'ai travaillé 15 ans avec Opération Mobilisation. On a essayé à plusieurs reprises de faire venir des équipes françaises dans le nord de l'Inde. On n'a jamais réussi. Et il y avait quelque chose de fort, de fait, d'avoir une équipe française qui venait dans le nord de l'Inde pour servir Christ. Et donc, il était étonné de ça. Le temps a passé, on a mangé ensemble, et après on a eu ce temps de prière. Et dans le temps de prière, la voix de cet homme s'est brisée. Mais c'est brisé, il a pleuré, un homme de 86 ans qui pleure, mais pas un homme qui pleurait sur ses malheurs ou qui pleurait sur les déceptions de la vie, mais un homme qui pleurait d'émotion et de joie de voir comment Dieu agissait. Et il a dit, ah voilà Seigneur, merci d'avoir envoyé ces Français-là. C'est pas qu'on était quelque chose, mais c'était le fait que Dieu était capable de susciter des gens d'une nation lointaine, qu'il n'avait jamais mis dans le que dans l'Inde du Nord, on n'avait pas vu venir au nom de Christ, et de les amener là, c'était comme un signe de réponse de Dieu à des prières. Et il a dit, ah voilà Seigneur, je reconnais que tu es vraiment ce Dieu qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons prier, imaginer ou penser. Et voyez, cet homme avait des larmes aux yeux, parce que dans son cœur, il avait gardé ce désir ardent de voir la gloire de Dieu manifestée. Et il était en émerveillement devant ce que Dieu faisait. Et il avait cette capacité de s'émerveiller, de reconnaître des visitations de Dieu dans des petites choses, parce qu'on n'était pas grand-chose, mais de reconnaître que Dieu était ce Dieu fidèle qui répondait aux prières et au-delà de nos prières. Voilà, et Abraham était dans ce cas. Il avait gardé dans son cœur, ce désir ardent de voir la gloire de Dieu se manifester. Et ce qui fait que comme Abraham est comme ça, regardez, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Quand il voit les hommes, Abraham il se dit pas, ouf, il y a trois hommes là, mais bon, la chaleur du jour, j'irai bien dans la tente dormir, hein, parce que si en plus il faut travailler pour les servir, etc. Non, non, il se lève. Et non seulement il se lève, mais il court vers les hommes, il court parce qu'il est rempli de ce zèle de Dieu pour servir et honorer Dieu. Il a gardé ce zèle ardent, il court pour servir la visitation de Dieu. Il a gardé un enthousiasme et un zèle persévérant. Je pense qu'une des choses les plus difficiles dans la vie chrétienne, c'est de grandir en maturité, c'est vrai, mais de garder le zèle du premier amour. De grandir en persévérance, mais de garder le zèle du premier amour. Et Abraham avait pu garder ça, malgré tous les obstacles et toutes les difficultés. Et ça, c'est une invitation. Dieu dit, mais qu'as-tu fait du zèle du premier amour? Es-tu prêt à courir pour accueillir, pour reconnaître la visitation de Dieu, même dans les choses anodines et les petites choses? Es-tu prêt? Il est prêt à servir une visitation qui n'est pas spectaculaire, parce qu'Abraham a compris une clé de la parole de Dieu. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera aussi les grandes. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ou dans les richesses injustes, comment lui confiera-t-on les véritables? Abraham sait que c'est dans la fidélité dans les petites choses que la gloire de Dieu se manifeste et qu'il est capable de donner les grandes choses. Quel est ton désir? Quelle est la promesse de Dieu que tu as reçu? Et peut-être c'est des grandes choses, mais est-ce que tu es prêt à reconnaître quand Dieu vient avec des petites choses et te dit, voilà, sers, voilà, entre, voilà, oui, j'ai fait des grandes promesses pour tes enfants, mais commence simplement par de petites choses. Commence à reconnaître quand Dieu commence à agir dans les petites choses. Peut-être que tu vas négliger, tu vas dire, oh non, mais ça c'est vraiment pas, moi j'attends beaucoup plus de Dieu. Bien sûr, tu attends beaucoup plus de Dieu, mais est-ce que tu reconnais Dieu dans les petites visitations et dans les signes d'encouragement et les prémices de ce qu'il est en train de faire dans ta vie, dans la vie des gens qui sont autour de toi, dans ton église? Combien de fois nous méprisons les prémices du réveil de Dieu dans notre église, dans la région? Combien de fois nous sommes incapables de les voir parce que nous sommes tellement focalisés sur les grandes choses de Dieu que nous ne savons pas reconnaître la fidélité dans les petites choses afin qu'on nous confie les grandes? Abraham a compris qu'il faut servir pour voir s'accomplir. Il faut servir le plan de Dieu pour le voir s'accomplir. Ça paraît simple comme ça, mais est-ce que nous sommes prêts à servir le plan de Dieu pour le voir s'accomplir? Alors, si par exemple tu as reçu une vision, j'ai eu une prophétie, j'ai eu un rêve il y a plusieurs années, je ne parle pas pour moi, hein, je parle comme si l'un d'entre vous disait, voilà, on m'a vu en train d'évangéliser les foules, et j'étais sur une grande estrade, il y avait des milliers de personnes. Et puis, les années ont passé, et rien ne s'est passé. Et puis, de temps en temps, ton pasteur ou quelqu'un a dit, oh tiens, viens, on va aller voir le voisin, et on va lui parler de Dieu, tu sais, il est en difficulté, ça serait bien de... Puis tu vas dire, oh non, 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 moi j'attends la réalisation de la grande promesse. Hein? Et si tu n'es pas prêt à servir, tu ne peux pas être prêt à accomplir. Et une autre façon dont Dieu nous appelle à servir, c'est souvent de servir une vision d'homme. Et Dieu t'appelle à entrer. Peut-être c'est la vision de ton pasteur, peut-être c'est la vision d'un frère. Ah, toi tu aimerais tellement que ça soit ta vision. Mais c'est ni ta vision, ni la vision du frère, c'est la vision de Dieu. Est-ce que tu es prêt à servir et à aider quelqu'un à interpréter sa vision, à réaliser sa vision, afin qu'en son temps, Dieu puisse accomplir la vision qu'il a donnée pour toi, enfin pour toi. La vision qu'il a donnée dans laquelle tu dois tu dois intervenir et jouer aussi ton rôle. Et souvent, c'est en servant dans des petites choses et en se mettant au service que Dieu peut accomplir. Donc Abraham a compris qu'il faut servir pour voir s'accomplir. Et il a servi dans des choses très simples, servir à manger, servir à boire. Mais l'accomplissement de la promesse va sortir de là. Et Abraham, il tire sa force en s'appuyant sur Dieu. Comment ? Abraham était un homme, il y avait la chaleur du jour, il y avait la chaleur spirituelle des épreuves, mais Abraham tirait sa force de Dieu. Vous savez ce verset dans Ésaïe 40, 31 qui dit « Voilà, les jeunes gens se fatiguent et les adolescents se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur vol comme l'aigle. » Et Abraham, cette parole n'avait pas été encore écrite dans la Bible, mais Abraham connaissait la puissance de cette parole pour sa vie. Un signe en est que cet épisode se passe à Mamré. Et Mamré, vous savez, le sens hébreu de Mamré, ça veut dire force et vigueur. Force et vigueur. Et ça, spirituellement, ça voulait dire que Abraham, malgré toutes les difficultés, toutes les épreuves, il était resté planté dans la force et la vigueur de Dieu, parce qu'il restait enraciné dans la présence de Dieu et dans cette espérance que Dieu allait répondre. Et on va aller plus loin en lisant un passage dans Romains. Romains 4. Alors quand je dis tout ça, bien sûr, pensez à Abraham, mais pensez à vous, la visitation de Dieu que Dieu veut vous donner, la nouvelle saison dans laquelle Dieu veut vous faire entrer. Êtes-vous prêt à la reconnaître et êtes-vous prêt à y entrer ? Romains 4, on va juste lire le verset, on va faire très court. Voilà, on va lire le verset 18 à 21. Alors qu'il n'avait aucune raison d'espérer, il a espéré contre toute espérance et il a cru. Ainsi, ça va ? Romains 4, 18, 21. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps comme qui était comme mort. Il avait presque 100 ans et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Espérant contre toute espérance. Voilà, on ne dit pas qu'Abraham, c'était un joyeux, quelqu'un, vous savez, les super positifs, oh, moi je ne regarde pas ce qui se passe autour de moi, alléluia, tout va bien. Non, il a considéré son corps. Et il a considéré le corps de Sarah et il a vu que humainement, c'était impossible. Mais il a espéré contre toute espérance. Ça, c'est une clé. Espérer contre toute espérance. Il n'a pas regardé aux circonstances contraires. Et il n'a pas regardé à lui-même et à son incapacité. Vous savez, ça, c'est une clé. Quand tu veux entrer dans ce que Dieu a proclamé sur ta vie, ne regarde pas à ta capacité d'abord et ni à ton incapacité. Mais si tu regardes à ta capacité, tu vas vite être confronté à ton incapacité. Mais regarde à la capacité de Dieu qui a fait la promesse. Regarde à la capacité de Dieu qui a fait la promesse. Et reconnais que c'est une œuvre que seul Dieu peut faire. Une œuvre que seul Dieu peut faire. Vous savez, bon, j'ai l'occasion, la plupart d'entre vous le savent déjà, mais j'ai toujours cet exemple pour nous, pour nos vies, avec mon épouse et notre fille, quand le Seigneur nous a appelés à l'école biblique et il nous a envoyés dans le nord de la France, une région qu'on ne connaissait pas, et il nous a envoyés dans une œuvre où il fallait travailler par la foi. Et nous, on avait mis toutes nos économies dans l'école biblique, tout ce qu'on avait pu économiser en Afrique. On se dit, mais comment ça, vous travaillez par la foi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et on se sentait absolument incapable. On n'avait plus d'argent pour pouvoir vivre par la foi. On n'avait pas une église qui nous envoyait. L'église dans laquelle on s'était converti, elle était en Afrique. C'était sûrement pas elle qui pouvait nous soutenir. Moi, ça faisait plus de 12 ans que j'avais pas été en France. On n'avait pas de contact. J'avais pas du tout un arrière-plan chrétien. D'où allait venir le secours? D'où allait venir cette provision dont Dieu parlait? Mais on n'a pas regardé à notre capacité, ni à notre incapacité. C'était facile de l'avoir. Mais on a regardé à la capacité de Dieu à accomplir. Et bon, je dis pas qu'on s'est levé le matin, oh, alléluia, Seigneur. Mais ça a été un combat. Mais vous savez, quand je suis arrivé ici dans le Nord, ouais, après avoir lutté avec Dieu et avoir accepté de venir, je me suis dit finalement, oh, ça sera une bonne expérience de foi. Mais Dieu m'a dit, au bout de quelques semaines, non. Genre, c'est pas une expérience de foi, c'est une expérience de grâce. Tu vas expérimenter ma grâce. Et je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, 8 ans après, on a expérimenté au jour, la grâce de Dieu dans le domaine des finances. Et Dieu a suscité des personnes, Dieu a suscité des cœurs, et au jour, il a donné sa provision. Mais on n'a pas regardé à notre capacité ou à notre incapacité, mais à la capacité de Dieu à accomplir ce qu'il a promis. Abraham aussi, il a fait autre chose. Il a compris, et c'est la continuité de ce que je dis, que son histoire n'était pas une histoire selon l'homme. Il ne s'est pas dit, oh, c'est une drôle d'histoire, mon histoire. Bon, j'étais dans mon pays lointain et dans l'idolâtrie. Puis un jour, j'ai décidé de me lever, d'aller dans un pays pour voir. Là. Non, non, non. Il savait que son histoire n'était pas l'histoire d'un homme, mais l'histoire de Dieu en marche dans la vie d'un homme. Il savait que ce n'était pas, son nom et sa gloire qui étaient en jeu, mais c'était le nom et la gloire de Dieu. Et crois-moi, quand tu comprends ça dans ta vie, ça change beaucoup de choses. Vous savez, des fois, on voit des chrétiens frustrés. « Oh, j'ai témoigné à la personne, etc. Et la personne m'a renvoyé. Pourtant, je m'étais bien préparé, j'avais prié. » Et on est déçu, on dit « Oh. » Et des fois, on est écrasé par ça. « Oh, voilà, même dans ma famille, j'ai tellement témoigné, mais les gens me persécutent, me refusent. » Mais sache que ce n'est pas une histoire selon l'homme, mais c'est une histoire selon Dieu. Sache que ce n'est pas ton nom ou ta gloire qui est en jeu, mais c'est le nom et la gloire de Dieu. Et ça va enlever un poids de tes épaules. Parce que si ça marche, enfin, je parle à la manière des hommes, hein, si ça marche, gloire à Dieu. Et si ça ne marche pas, mais Dieu va se débrouiller pour que les choses se fassent, parce que c'est sa gloire et son nom qui est en jeu, et non pas le tien. Et ça enlève un poids de tes épaules. Bien sûr, tu t'attaches à faire tout ce que Dieu te dit de faire, mais ça enlève un poids de tes épaules. Comprendre que ce n'est pas ma nom, ma gloire, ma réputation qui est en jeu dans le fait d'accomplir la promesse de Dieu, dans le fait d'avoir un ministère ou de réaliser quelque chose que Dieu m'aurait appelé à faire, mais que c'est la gloire et le nom de Dieu qui est en jeu. Ça travaille l'humilité d'abord, mais aussi ça enlève un poids de tes épaules. Abraham aussi, il a cru et il a compris que la fidélité de Dieu était plus grande que son infidélité. Voilà, Abraham a réalisé, oui, voilà, j'étais infidèle. J'ai péché avec l'histoire d'Ismaël. Ce n'était pas le plan de Dieu. Mais il a su et il savait que la fidélité de Dieu était plus grande que son infidélité. Que Dieu, quand nous nous repentons et quand nous revenons vers lui, est capable d'aller bien au-delà de notre infidélité et de nous ramener dans son chemin de grâce. Abraham avait compris cela. Et Abraham, oui, j'ai une autre traduction ici qui dit dans le verset 20, hein, vous voyez où il est dit, le verset 20, il est dit au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu. Il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu. Je vous donne une traduction anglaise, donc que j'ai traduite, mais j'ai traduit le verset, hein, j'ai pas traduit la Bible, qui me parle beaucoup, et qui dit, il a plongé dans la promesse de Dieu, et il en est ressorti fort et prêt pour Dieu. Il a plongé dans la promesse de Dieu, il en est ressorti fort et prêt pour Dieu. Voilà, quand tu es dans cette situation où les choses ne semblent pas s'accomplir, plonge tes regards, plonge ton cœur, plonge ta prière, plonge ton espérance dans la promesse de Dieu. Et tu vas ressortir de là fortifié. Et aussi tu vas ressortir, en travaillant ça jour après jour, tu vas ressortir prêt pour Dieu. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que souvent, nous voulons ouvrir des portes pour Dieu. Souvent, nous sommes toujours prêts à faire des raccourcis et nous disons, oh mais voilà, Dieu tarde, allez, hop, je vais ouvrir une porte. Mais Dieu m'a dit quelque chose un jour, il m'a dit, mais voilà, n'essaie pas d'ouvrir des portes pour moi, mais prépare-toi pour le jour où j'ouvrirai ma porte. Prépare-toi pour le jour où j'ouvrirai ma porte. Et ça fait la différence, parce que quand Dieu ouvre sa porte, est-ce que tu es prêt à reconnaître la porte de Dieu? Et est-ce que tu es prêt à entrer dans la porte de Dieu? Cultiver, proclamer et prier la promesse de Dieu, afin de laisser ton esprit, de laisser Dieu ranimer sa flamme dans ton esprit, de laisser Dieu ranimer son zèle dans ton esprit. De laisser aussi l'Esprit de Dieu nous purifier et nous préparer pour que l'accomplissement de sa promesse se fasse. Je sais qu'il y a de nombreuses années, quand on arrivait au château, mon épouse, elle avait reçu, quand on était au Danemark, des choses très précises par rapport à une maison de prière. Et quand on arrivait au château, les choses ont semblé commencer à se mettre en place par rapport à une maison de prière. Et on a même reçu des rêves précis et des paroles précises par rapport à ça. Et puis, par toutes sortes de circonstances, en fait, nous sommes amenés, au bout de 3 ans, à quitter le château, à aller sur Roubaix. Et en fait, quelque chose semble être mort là, pour la maison de prière. Ce qui avait démarré au château, petit à petit, ça s'est effrité. Et la maison de prière semblait abandonnée pendant des années. Il ne se passait plus rien. Mais je sais que depuis une année et demie à peu près, Dieu a ranimé cette flamme en nous. Il a ressuscité une prière. Et on n'avait pas abandonné la prière, mais c'était quelque chose qui était comme couvert, comme sur l'étagère. Mais Dieu avait gardé ça dans le cœur. Et en son temps, en sa saison, il est en train de faire émerger ça. Bon, et Jean-Luc peut témoigner que quelque chose qui commence à émerger. Et nous croyons que c'est le temps pour cette maison de prière dans cette région d'émerger. Vous voyez, des choses comme ça dans votre vie où c'est le temps et la saison de Dieu. Et il faut être prêt pour le temps et la saison de Dieu. On va finir juste avec ce point-là. Qui dit d'embrasser la promesse de Dieu, de se plonger dans la promesse de Dieu? Bien sûr, ça veut dire d'abord embrasser celui qui fait la promesse. Embrasser Dieu lui-même. Embrasser le Seigneur Jésus. Et se serrer contre lui, parce que c'est, comme je l'ai dit hier, une révélation est une chose, mais la révélation ne fera jamais qu'elle pourra s'accomplir. Mais c'est la relation que tu as et que tu cultives avec Dieu qui fera que la révélation pourra devenir vivante en toi, devenir chair et os en toi, et que le désir et la force de l'accomplir viendra en toi, et que Dieu ouvrira la porte dès que, quand ton cœur est prêt pour entrer dans sa vision. Et on va finir avec ce verset, Ésaïe 66. Ésaïe 66. Versets 8 à 9. C'est une parole qui dit pour Israël et pour l'avenir d'Israël, mais c'est une parole qu'on peut s'appliquer aussi par rapport à une promesse que Dieu t'a faite, par rapport à une nouvelle saison. Qui donc a entendu rien de pareil et qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître d'un seul jour? Où peut-on enfanter une nation en un instant? Or, à peine en travail, Sion a mis des fils au monde. Et quoi, amènerai-je le moment d'enfanter sans faire naître, dit l'Éternel? Moi qui fais enfanter, empêcherai-je cette venue au monde, a dit ton Dieu? Dieu est le Dieu qui conçoit. Dieu est le Dieu qui dépose sa promesse et sa parole en nous. Et Dieu est le Dieu qui prend soin de sa semence et qui l'amène à maturité. Et Dieu est le Dieu qui fait enfanter. Est-ce que tu crois que si Dieu a appelé à concevoir quelque chose en toi pour que tu puisses enfanter, est-ce que si Dieu appelle une église à concevoir quelque chose pour que nous puissions enfanter, est-ce que Dieu va empêcher d'enfanter? Non, Dieu, en son temps, va hâter l'enfantement. Mais sommes-nous prêts à enfanter? Sommes-nous prêts à reconnaître le temps où Dieu appelle à enfanter? Et ça, c'est une parole, je pense, pour chacun de nous, que chacun de nous puisse y reconnaître, mais aussi probablement pour cette Église. Quelles sont les promesses que nous avons reçues dans le passé? Quelles sont les promesses qui ont été proclamées sur cette Église? Avons-nous gardé les vivantes, les promesses de Dieu? Sommes-nous dans cet état où nous sommes devant la tente, mais en éveil, prêts à courir et à servir la parole et la promesse de Dieu, prêts à reconnaître la visitation de Dieu? Quelles sont les promesses que nous avons reçues dans cette région? Vous savez, il y a 2 ans et demi, le Seigneur a commencé à me parler régulièrement. Je fais toute chose nouvelle. J'appelle une nouvelle saison. Et cette parole n'arrête pas de me suivre parce que je sais que la nouvelle saison est venue. La nouvelle saison est à la porte. Mais Dieu attend que ses enfants soient prêts à reconnaître cette nouvelle saison et à entrer dans cette nouvelle saison. On va voir la gloire de Dieu se manifester. Mais est-ce que mon cœur est prêt à recevoir? Est-ce que mon cœur est prêt à entrer? Est-ce que je suis prêt à servir dans les petites choses pour voir la gloire de Dieu s'accomplir? La nouvelle saison de Dieu. La nouvelle saison de Dieu. Et un arbre, vous savez quand est-ce que l'arbre produit le plus de choses, a une activité le plus intense? Dans quelle saison? Non, l'activité la plus intense. Printemps. C'est là que vraiment il y a une croissance, bon, avec les bourgeons qui sortent, la vie qui explose, en très peu de temps, en très peu de temps. Et la saison qui précède le printemps, c'est quoi? Voilà, et c'est la saison où il ne se passe rien, c'est la saison, enfin en tout cas tous les arbres, particulièrement les arbres qui perdent leurs feuilles, c'est la saison où l'arbre semble mort. On pourrait passer, on pourrait dire, mais on ne sait même pas s'il est vivant cet arbre. Tu ne vois pas la différence entre un arbre qui est en train de mourir et un arbre qui va porter la vie dans quelques semaines? Mais c'est dans l'hiver que l'arbre a le moins d'activité, mais c'est là qu'il se nourrit le plus et qu'il accumule toute sa force pour, au temps du printemps, avoir laissé jaillir cette force et jaillir la vie que Dieu lui donne de faire jaillir. Et ne t'étonne pas, mon frère, ma sœur, si tu passes par un hiver, parce que c'est le temps où Dieu te dit de ne pas rester dans l'amertume de l'hiver, mais d'accumuler et de stocker et de te remplir de la force, de la consolation et de la parole de Dieu, afin que quand le printemps et la saison viennent, tu sois capable de faire jaillir la vie de Dieu. Reconnaissons que l'hiver est un temps favorable pour Dieu de nous remplir de sa vie, afin qu'au printemps nous portions les fleurs et les fruits que le Seigneur nous appelle à porter. Amen. On va prier. Oui. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vie. Père, je prie que cette parole retentisse dans les cœurs, Seigneur. Je prie que nous voyons que ta parole n'est pas simplement une suite de pages, mais la vie d'hommes et de femmes qui nous ont précédés, qui ont souffert, qui ont pleuré, mais qui ont eu cette relation avec Dieu et qui ont vu le secours de l'Éternel. Seigneur, je prie que chacun ici soit fortifié et renouvelé dans sa vision de toi, dans les choses que tu lui as dites, mais au-delà de cela, Seigneur, dans sa vision de toi, dans la vision de qui tu es pour sa vie, de ce que tu as fait dans sa vie, de qui tu es et de ta volonté pour sa vie, dans la vision de la destinée que tu appelles sur sa vie et dans la vision de la destinée que tu l'appelles à être pour bénir d'autres aussi. Je prie aussi que tu réveilles ta vision et ta destinée pour cette Église, Seigneur, pour cette Église. Et peut-être il y a eu beaucoup de paroles qui ont été prononcées, peut-être beaucoup de découragement, peut-être qu'on a même laissé de côté certaines promesses, Seigneur, mais nous croyons que tu es le Dieu fidèle qui conçoit et qui appelle à enfanter au moment d'enfanter, Seigneur, à condition que la femme qui conçoit et qui porte, Seigneur, puisse pousser au moment où il faut enfanter, Seigneur, afin qu'elle reconnaisse et qu'elle puisse reconnaître que c'est le temps de Dieu. Seigneur, nous voulons reconnaître que ton temps est à la porte. Seigneur, nous voulons aussi te laisser mettre le doigt sur les choses dans nos vies dans lesquelles tu veux encore nous préparer. Nous ne voulons pas être de ceux qui passent à côté de la visitation de Dieu, mais nous voulons être de ceux qui, comme Abraham, sont restés en éveil et savent reconnaître la visitation même dans les choses petites et anodines, qui sont prêts à servir et à honorer Dieu, parce que au-delà d'eux-mêmes, au-delà de la promesse, ce qui leur plaît, c'est de voir la vérité et de voir la gloire et de voir l'amour de Dieu manifesté. Oh Père, je prie que tu ranimes nos cœurs et nos âmes, tu ranimes les cœurs et nos âmes, tu ranimes la braise, tu ranimes la flamme en nous, Seigneur. Je prie aussi pour cette église, je prie pour cette ville de Wavrin et cette région, Seigneur. Oh Père, merci pour les promesses que tu as données dans le passé. Et Seigneur, nous sentons que tu viens et tu réaffirmes des promesses. Tu viens à période régulière et tu rappelles des promesses anciennes, parce que tu dis, voilà, n'oubliez pas la promesse. N'oubliez pas la promesse que j'ai faite. Elle se tient à la porte. Es-tu prêt à la reconnaître? Es-tu prêt à y entrer, à l'accomplir? Seigneur, je prie que nous puissions laisser nos cœurs être préparés par ton esprit. Je prie, Seigneur, que là où nous avons lutté, là où nous avons résisté, Seigneur, c'est le temps de comprendre que l'hiver n'est pas une période pour mourir, mais l'hiver est une période pour se laisser faire par Dieu, non pas pour essayer de faire des grandes choses, non pas pour essayer de paraître, mais pour accepter peut-être de paraître mort, mais d'être rempli de la vie de Dieu et nourri par la vie de Dieu, d'être changé dans notre façon de voir, d'être changé, que nos résistances soient déverrouillées, afin que nous puissions recevoir de ta consolation, afin que nous puissions avoir ta perspective. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui se sont sentis en hiver, Seigneur, qu'ils comprennent cela et qu'ils puissent puiser et se nourrir de toute la force de Dieu, parce que le printemps vient, parce que le printemps vient. Es-tu prêt à laisser jaillir la vie de Dieu? As-tu rempli ton tronc, as-tu rempli ton cœur de la vie de Dieu afin qu'elle jaillisse et qu'elle porte la vie? Seigneur, merci. Merci, nous voulons reconnaître que c'est toi qui fais toutes choses nouvelles. Nous voulons reconnaître que ta nouvelle saison est à la porte. Oh Père, fais-nous la grâce de comprendre, fais-nous la grâce de persévérer, fais-nous la grâce d'accepter et fais-nous la grâce d'entrer, afin que ta gloire et ton nom soient manifestés dans nos vies, dans cette église, dans cette ville de Wavrin et ses environs, dans cette région et dans cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Amen.